RCF.
Le coteau aux orchidées de Saint-Maurice, à quelques kilomètres de Jonzac, est un site dédié aux orchidées. Visite guidée avec Jérôme Bonchet, animateur du site. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors, nous sommes entourés de vignes. C'est en pleine campagne. C'est magnifique ici.
Oui, on est vraiment sur un site exceptionnel qui surpond justement une petite vallée. Bon, on voit les champs, les vignes, les haies. Et du coup, la particularité de ce site, bah, c'est d'avoir préservé un coteau naturel, une prairie naturelle sur un des coteaux de l'axe Pont-Jonzac. On a comme ça plein de petites parcelles dispersées entre Pont et Jonzac qui sont vraiment super sympas à découvrir.
Alors là, on va faire la visite ensemble. Mais cette visite, elle peut être aussi faites de manière très libre, sans forcément avoir un animateur comme vous qui va nous expliquer ce qu'on voit.
Oui, c'est des sites qui sont ouverts par le département, enfin qui sont répertoriés dans les échappées nature. Et le but, c'est vraiment que les gens découvrent par eux-mêmes. Donc vous allez voir, en plus, ce site, il est agrémenté de plein de petits panneaux qui sont dispersés sur le site. Donc ça amène vraiment les gens à parcourir, à découvrir en autonomie, bien sûr aussi avec des visites guidées. Mais c'est vraiment des sites qui sont faits pour le découvrir en famille ou seul.
Alors on y va, c'est parti ?
C'est parti.
Bon, par contre, il faut être chaussé de tennis, hein, de bonnes chaussures de marche quand même.
Oui, c'est un site qui est un petit peu pentu, il y a de l'herbe. Le but de ce site, c'est pas de, il n'y a pas de sentier vraiment identifié. Bon, on voit des petits cheminements, mais c'est vraiment un site sur lequel on peut se balader partout. Donc voilà, il vaut mieux des bonnes chaussures, être équipé.
Allez. Donc un site qui s'appelle le coteau aux orchidées, parce que justement, il y a plein d'orchidées, c'est ça ?
Alors, ça dépend de la saison. D'accord. Justement, là, en ce moment, c'est un petit peu la fin. On a tardé à faire les visites avec le confinement. Mais le mieux pour voir les orchidées, c'est avril, mai, début juin. Sachant que ce site, bon, c'est le coteau aux orchidées, c'est sûr que c'est la plante symbole. Mais il y a vraiment plein de choses à découvrir tout au long de l'année. Donc, si on veut voir vraiment des orchidées, c'est vrai que c'est plutôt au printemps. Mais là, en cette période de l'année, c'est aussi super sympa à découvrir. Il y a plein d'autres plantes. Il y a plein aussi de petits animaux à découvrir. C'est un site qui peut se visiter vraiment toute l'année.
Donc pour la faune et la flore.
Oui. Et la faune, alors, c'est un site qui est vraiment... C'est coteaux secs, c'est vraiment des choses où on va voir beaucoup d'insectes. Donc on ne va pas voir des gros animaux, il y en a. Hein. On voit des traces de lapins, de renards, de choses comme ça. Mais ces animaux se cachent bien sûr la journée. Donc là, en journée, ce qu'on va vraiment pouvoir observer, c'est des petits insectes. En fouillant dans les bosquets de genévriers, il y a des mantes religieuses. Enfin, du coup, c'est tout un petit safari à faire avec les enfants. Ils adorent. Avec nous, quand on vient, on a des petites épuisettes à papillons, des choses comme ça, pour qu'ils puissent découvrir tous ces petits animaux.
Alors, les orchidées, pourquoi c'est la fleur typique ici, les orchidées ? Pourquoi les orchidées ?
Alors les orchidées, c'est une famille de plantes très très particulière. En fait, il y a besoin de... Alors il y a plusieurs milieux où elles poussent, mais ici, les orchidées qui poussent ici sur le coteau, c'est des plantes qui ont besoin de très peu de nutriments. Donc elles poussent sur des terrains très pauvres et elles vont supporter aussi très bien la sécheresse. Donc ce qu'on a ici, ça va être des orchis, des ophrys, comme l'ophrys abeille, qui est une très belle orchidée qui imite un petit peu la forme d'un insecte. Et ces orchidées, elles vont être en symbiose avec un champignon. Donc c'est toutes des plantes protégées. De toute façon, on n'a pas le droit de les arracher, de vouloir les mettre chez soi. Mais en plus, c'est vraiment des plantes qui ne peuvent pousser qu'ici. Il y a un champignon particulier dans le sol. Et du coup, la plante rentre en symbiose avec le champignon. Donc si on la sépare de son champignon, ça ne fonctionne plus et elle meurt.
D'accord. Donc quand vous dites ici, c'est ici dans le sud du département, il y a vraiment, ou dans tout le département ?
Non, dès qu'on a des coteaux secs préservés, qui n'ont pas été trop travaillés par des vignes, enfin voilà, qui sont restés en prairie naturelle, on a généralement pas dans le département, puis dans plein d'autres endroits, hein, ces sols à orchidées, enfin ces sites à orchidées. Donc c'est pour ça que le département, les collectivités, la communauté de communes essaient de cartographier un peu, de repérer ces zones, et puis ensuite de les préserver dans le cadre des échappées nature, des espaces naturels sensibles, pour justement que ces milieux ne disparaissent pas, qu'ils ne soient pas transformés. Parce que les orchidiens, c'est quand même... Il y a plein d'espèces, mais il y en a vraiment qui sont aujourd'hui très rares.
Le bruit qu'on entend ici, le seul bruit qu'on entend, ce sont les bruits des tracteurs.
Oui, le site en fait est tout petit en largeur, enfin il fait 50 mètres de large, puisque du coup c'est le coteau, on est pris entre le plateau et la petite vallée, et donc du coup on a l'activité agricole autour de nous. Par contre il est très long, il fait à peu près 1 km de long, donc mais il faut imaginer une grande bande sur un versant un peu pentu. Celui-là il est assez accessible, il y a d'autres coteaux qui sont beaucoup plus penchés, mais du coup voilà, on est entre le plateau et la petite vallée.
L'activité agricole, là, ce qu'on voit, en fait, ce sont des tracteurs qui viennent pour les vignes, hein, c'est ça ?
Oui, l'activité autour de Jonzac, elle est principalement aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de vignes, hein, avec l'activité autour du cognac. Et donc, du coup, là, ils sont en train de travailler les vignes. Alors pour les gens qui sont en visite sans accompagnement, il y a des petits panneaux qui sont dispersés sur le site. Et puis quand on fait la balade, nous, bah du coup, on va s'arrêter sur des zones comme ici. On a les chardons qui commencent à pousser. Alors ils ne sont pas tout à fait en fleurs, ils vont fleurir plus tard dans la saison. Mais quand ils vont être en fleurs, ils vont attirer beaucoup de papillons, d'insectes pollinisateurs. Donc c'est intéressant à observer. On est juste devant aussi quelques petits genévriers. Donc les genévriers, ils peuvent avoir tendance à se déployer sur le site. Le but, c'est qu'il y a à la fois des bosquets de genévriers et des parties en prairie. Donc il y a régulièrement des entretiens qui sont réalisés par soit les agents de la communauté de communes, soit par des partenaires du département pour limiter le déploiement des genévriers, pour qu'il y ait un équilibre entre les genévriers et la prairie. Et dans les genévriers, c'est toujours quand on les cherche qu'on ne les voit pas. Mais quand on fait les balades, on demande voilà, aux enfants, aux gens d'observer régulièrement dans le genévrier s'ils ne voient pas une mante religieuse se balader, puisque c'est vraiment dans ces petits bosquets qu'elles se cachent. Elles sont sur les dernières branches, elles attendent qu'un insecte passe près d'elles, et puis du coup, bah, s'il y a l'insecte, elles l'attrapent pour le manger, puisque c'est des carnivores.
La mante religieuse, la particularité, c'est qu'elle se mange entre elles, non ?
Alors oui, c'est pas une légende, hein. Oui, la femelle, après l'accouplement, peut manger le mâle. En fait, dans ces insectes, dans ces animaux, quand ils ont faim, ils mangent ce qui passe. Et c'est vrai qu'ils ne regardent pas forcément si c'est un animal de la même espèce qu'eux ou pas. Donc la femelle, une fois qu'elle s'est accouplée, après son objectif, c'est de manger. Et si le mâle est là et qu'elle voit qu'elle peut l'attraper, elle va le manger comme si elle mangeait un papillon ou un autre insecte. Elle ne va pas faire trop de différence.
C'est pas très sympathique.
Oui, c'est pas assez.
Ces chardons, ils piquent, hein, parce que quand je les frôle là, avec le jean, ça passe à travers,
oui,
quand même. Hein.
Oui,
je
oui,
sens.
Oui,
ils sont assez costauds.
Oui, il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est des plantes assez agressives. Oui. Alors là, on est arrivé en bas du coteau. Et là, du coup, on a souvent des parties comme ça sur le coteau où il y a des regroupements de terriers de lapins. Et c'est généralement près de ces sites-là aussi qu'on va voir un des habitants un peu symboles des coteaux secs aussi, c'est le lézard vert. C'est un gros lézard, hein, bon, qu'on peut voir aussi dans d'autres milieux, mais sur ces coteaux secs, il est bien présent, il aime bien la chaleur, il aime bien aller manger des insectes, donc il a tout ce qu'il lui faut. Et il est souvent autour des terriers de lapins, parce qu'il en profite pour se cacher. Alors il peut se cacher aussi dans un bosquet, dans plein d'autres endroits, mais quand il y a les terriers de lapins, qui trouvent un terrier de lapin un peu inoccupé, il peut s'en servir pour se protéger, pour se cacher quand il a besoin, quand il a peur d'un prédateur.
Plein de petits panneaux explicatifs là, au gré de la balade. Là, par exemple, on parle de... Ça fait plusieurs fois que je vois des panneaux avec des papillons, donc il y en a beaucoup aussi.
Oui, alors il y a beaucoup de papillons, et sur ces coteaux secs, il y a également des papillons justement assez rares qui vivent que sur ces coteaux. Donc là, par exemple, on a un panneau sur l'Argus. Donc c'est des petits papillons bleutés qu'on peut voir dès que le soleil sort, hein, ils aiment bien la chaleur. Et c'est des papillons qui vont vivre vraiment dans ces milieux-là, qui sont inféodés, hein, qui peuvent vivre vraiment qu'avec quelques plantes. Alors c'est pas vraiment l'adulte qui a vraiment besoin d'une plante en particulier, c'est ses chenilles. En fait, la femelle, elle ne peut pondre que sur une ou deux plantes. Et il y a par exemple des papillons qui vont pouvoir pondre que sur le serpolet, qui est une petite plante de la famille du thym qui pousse que sur les coteaux secs. Donc du coup, les femelles ont besoin aussi de ces milieux naturels particuliers pour pouvoir se reproduire.
Oh, ouais. C'est un lapin, non ?
Oui, voilà, c'est un des lapins qui était caché juste sous nos pieds. Qui est parti se réfugier dans le bosquet.
On l'a fait fuir. On l'a perturbé dans sa tranquillité.
Oui, bah, voilà, je pense qu'il va ressortir sans problème. C'est des animaux, de toute façon, qui sont toujours sur le qui-vive. C'est un peu leur façon de vivre. Sur le site, en se baladant, on voit aussi parfois des crottes de renard. Donc, du coup, le renard est très présent. Donc, forcément, le lapin est toujours sur le qui-vive pour pas se faire attraper par le renard. C'est un peu le lien entre les deux. Sachant que quand il y a des renards, ça assure la pérennité des groupes de lapins, puisqu'en fait il y a une interaction entre les deux. Bien sûr, le renard mange les lapins, mais il va manger que les lapins les plus faibles, parfois qui peuvent avoir une maladie, des choses comme ça. Et en fait, du coup, il va éviter que des épidémies ou des choses comme ça se répandent dans la population de lapins. Donc c'est pas parce qu'il y a du renard que les lapins vont disparaître, au contraire, c'est un équilibre entre les deux. L'équilibre se fait et du coup il est pérenne sur des sites comme ça. Ça fait très très longtemps qu'il y a bien sûr les deux espèces. Donc du coup, si on regarde un peu plus près, quand on regarde la pelouse, on voit qu'il y a plein de plantes différentes. Là justement, on a le serpolet, des petites fleurs violettes qui sont au ras du sol. Quand on les touche et qu'on sent un petit peu l'odeur, du coup, on sent vraiment cette odeur de thym un peu particulier. C'est une plante médicinale.
Ces fleurs violettes, là ?
Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est une plante médicinale qui est utilisée traditionnellement pour les voies respiratoires, des choses comme ça. Donc, c'est une plante très aromatique. Si on marche un peu dessus ou qu'on la frôle avec les mains, on sent tout de suite une odeur particulière
Je peux en prendre un peu ?
Ah oui. Alors du coup, là, c'est des sites où on ne peut pas faire de cueillette. Voilà, on ne va pas venir cueillir ces plantes. Mais par contre, n'hésitez pas, si vous êtes sur le site, à sentir une odeur, à froisser une feuille.
C'est
la partie. Voilà, il faut découvrir aussi cette partie-là du site.
On sent bien les effluves, là. Ça sent bon.
Et donc du coup, on manque un petit peu de soleil ce matin. Mais dès que le soleil sort, c'est des plantes qui vont attirer beaucoup de papillons. Qui vont venir y butiner, et pour certains papillons aussi, comme on a dit tout à l'heure, y pondre leurs œufs pour que les chenilles se développent sur cette plante. Là, on a des grandes plantes violettes aussi, c'est la catananche. Donc les catananches, là, on peut y observer parfois des insectes pollinisateurs. Là, il y avait une petite abeille qui butinait, mais on peut aussi voir dans ces plantes, et surtout dans les marguerites, on va essayer d'en voir, des petites araignées qui ne tissent pas de toile. Mm-hmm. Ça s'appelle les araignées crabes, et en fait elles se camouflent au cœur de la fleur. Elles sont très très mimétiques, elles prennent la couleur de la fleur, elles ne bougent pas, elles attendent qu'un petit insecte justement vienne butiner, et dès que l'insecte s'approche, elle l'attrape pour le manger. Et ce sont des araignées très très belles, puisqu'elles ont vraiment des couleurs, après les couleurs de la fleur. Donc il y en a qui peuvent être complètement blanches, jaunes, parfois avec des couleurs irisées, violettes. Enfin, du coup, c'est vraiment des petites araignées. Elles sont toutes petites, mais elles sont vraiment à observer. Donc il ne faut pas hésiter à regarder au cœur de la fleur. Bon, là, il n'y en a pas sur les plantes qu'on est en train de regarder. Mais surtout sur les marguerites. Donc on va essayer de trouver un endroit où il y a des marguerites. Et sur les marguerites, vous avez les araignées crabes blanches qui sont sur la périphérie dans les pétales blancs, et des araignées crabes jaunes qui sont, elles, dans le cœur de la marguerite. Donc du coup, c'est vraiment particulier.
Ce genre de site, ça s'entretient tout seul, en fait. Vous n'avez rien à faire
particulièrement. Du coup, il y a quand même justement par rapport à l'ouverture, enfin ce qu'on appelle l'ouverture, c'est de maintenir des prairies, des zones basses. Donc pour éviter que des broussailles gagnent trop, que les bosquets de genévriers se développent trop, il y a des interventions des services du département ou de la communauté de communes pour maintenir le milieu ouvert. Donc ça se fait pas n'importe quand. Ça se fait très tôt au printemps ou à l'automne pour pas avoir d'impact ou l'impact le plus faible possible, bien sûr, quand il y a le débroussaillage sur des insectes, sur les orchidées, enfin voilà. Et donc du coup, c'est fait en lien avec plusieurs services pour maintenir le site. Mais c'est vrai que sur des petits sites comme ça, où en fait il y a pas une grande surface, les bosquets de genévriers pourraient gagner très vite trop de place, par exemple. Ou la forêt aussi, on a les pins qui... c'est très bien d'avoir ces petits bosquets de pins, mais ils pourraient aussi se déployer sur l'ensemble du site, et puis ça serait moins intéressant si on avait après qu'une petite forêt de pins.
C'est envahisseur, en fait, c'est ça?
Oui, ça a tendance... du coup, ça fait des bosquets piquants, et petit à petit, les bosquets s'élargissent, de nouveaux pieds de genévrier vont se développer, et voilà, s'il n'y a pas d'intervention, d'entretien, bah, du coup, on se retrouve avec un énorme fourré de genévriers sans rien d'autre. Bon, après, c'est des interventions qui ne sont pas faites chaque année. C'est ponctuel et c'est fait dans un plan de gestion. Il y a plusieurs interventions. Il y a, sur des sites comme ça, il y a la communauté de communes, le département. Mais après, il y a aussi des associations, des structures qui sont spécialisées dans la gestion de sites comme ça, donc avec le conservatoire des espaces naturels. Sur les orchidées, du coup, il y a énormément d'espèces. Donc nous, quand on fait les visites, on identifie les plus communes, les plus faciles. Mais il y a aussi sur ces sites-là vraiment des espèces rares, des hybridations. Donc il y a des structures aussi qui sont spécialisées pour faire, elles, des inventaires scientifiques des orchidées qui viennent sur ces sites-là aussi pour vraiment voir la richesse totale du site. Alors là, il y a aussi cette petite plante qui est sympa à découvrir. Alors,
c'est, proche du sol.
Voilà, proche du sol. C'est une toute petite plante à 5 pétales blanc crème. Et en fait, ça, c'est du lin soufré. Donc, c'est la même famille que le lin cultivé. Mais du coup, là, c'est une des variétés, enfin, une des espèces sauvages proches du lin, après, qu'on peut trouver dans les champs. Donc, il y a plein d'espèces comme ça, de toute façon, qu'on a dans nos jardins, dans nos cultures, qui vivent bien sûr à l'état sauvage, soit la même espèce, soit des espèces proches, qui ont ensuite été adaptées pour les cultures. Donc on a le lin soufré ici, on a parfois, alors là on n'en a pas vu en passant, mais sur ces coteaux ou sur les côtés, on a aussi pas mal la carotte sauvage, hein, qui est l'ancêtre des carottes de nos jardins. Enfin, on va retrouver aussi pas mal de plantes domestiquées par l'homme ensuite.
C'est quoi ces plantes-là, toutes roses, avec de grands pétales?
Là, on va avoir du
plutôt
poids de senteur.
Plutôt rond, des pétales ronds?
Oui. Là, c'est des pois de senteur. Et puis, juste à côté, on a de l'origan sauvage. Donc là, c'est pareil, l'origan sauvage, hein, c'est une des plantes aromatiques ouais. Qui a une odeur aussi assez caractéristique.
Vous prenez plutôt la feuille
là,
que
on peut prendre,
que
je
la
crois,
fleur.
C'est une petite feuille. Voilà, dans la feuille, il y a pas mal d'odeur aussi.
Ah oui,
ouais.
C'est parfumé.
Oui, c'est vraiment les plantes. Et puis là, plus il va faire chaud pendant l'été, plus quand on va s'en rapprocher, l'odeur vraiment avec la chaleur jaillit. Hein, ça fait vraiment rien. Quand il fait vraiment très chaud, on n'a même pas besoin de les toucher. En passant à côté, on sent tout de suite les effluves hein, odorants de ces plantes aromatiques. Il y a une partie aussi sur le haut du site qui forme une sorte de haie un peu plus dense. Donc ça va permettre aux oiseaux de s'y réfugier. On entend plusieurs espèces. Ils vont faire leur nid à l'intérieur. Alors là, les nids, je pense qu'ils sont finis. Là, les petits sont nés. Mais du coup, ça va leur permettre aussi, dans ces buissons denses, d'y installer leur nid. Alors là, on est devant un vieux-nobier, mais juste à côté, il y a un prunelier. Les pruneliers, ils ont plein d'épines assez impressionnantes. Donc du coup, ça va éviter... ça va permettre aux oiseaux de se protéger des prédateurs. Justement, le renard, ou des martres, des choses comme ça, ils ne vont pas aller dans les arbres, c'est trop piquant, donc ils vont vraiment pouvoir installer leur nid. Et ensuite, ces petits arbustes des haies, ils vont fournir aussi de la nourriture tout au long de l'année. Là, on a le vieux-nobier, les fruits sont rouges, donc ils vont pouvoir être bientôt consommés par les animaux. Et puis sur les
mais c'est pas comestible pour
alors,
les humains?
Non, oui, là, c'est pas parce que les animaux mangent les plantes que c'est comestible, il faut faire attention, il ne faut pas manger n'importe quoi, il vaut mieux éviter. Et puis là, on a le prunelier, donc l'épine noire. Et alors ça, le fruit est comestible, mais il faut attendre très très tard dans la saison, plutôt octobre, novembre, parce qu'en fait,
ça ressemble à des grosses myrtilles.
Hein. Ouais, voilà, c'est des toutes petites, enfin c'est de la famille des prunes, mais c'est pas beaucoup plus gros qu'une myrtille. Et ça, c'est très, très âpre hein, au goût. C'est vraiment désagréable. On peut goûter, mais c'est vraiment un goût très particulier. Et par contre, à l'automne, quand le fruit va se gâter un peu, là, il va prendre un meilleur goût et ça peut être consommé. Et les animaux vont aussi attendre cette période de l'année pour le consommer. Ce qui fait que du coup, là, on va avoir le vieux-nobier qui va être consommé très rapidement. Les pruneliers qui vont être consommés pendant l'hiver. Enfin, du coup, on a toute une gamme aussi de... Enfin, les arbustes vont produire des plantes, enfin plutôt des graines, des fruits pour toute l'année, ce qui va permettre aux animaux de pouvoir se ravitailler sur le site tout au long de l'année.
Il y a aussi des serpents sur ce site?
Oui, il y a quelques couleuvres. Alors, sur ces coteaux secs, hein, justement, bah, c'est sec, c'est chaud. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure des lapins, mais il y a aussi des petits rongeurs, hein, des mulots, des choses comme ça. Donc, il y a de la nourriture pour eux. Et c'est vraiment un site aussi adapté pour ces espèces. Alors, faut pas en avoir peur du tout. Hein. Déjà, c'est des animaux très discrets. Donc, à moins vraiment, moi, quand je viens pour les observer, on vient très discrètement, lentement, sans faire de bruit. Mais dès qu'on fait un bruit sur le sol, enfin voilà, les mouvements au sol, hein, ils les détectent de très loin, donc ils vont disparaître bien avant que les gens ne les voient, et ils vont, de toute façon, ils sont toujours aussi à se réfugier le long des bosquets, dans les buissons, puisque une de leurs menaces, c'est le circaète, hein, qui est un rapace qui ressemble un peu à une buse, mais qui est spécialisé dans la chasse, qui va se nourrir que de serpents, et donc du coup, pour se mettre à l'abri des circaètes, les serpents généralement sont sous les bosquets, dans les genévriers, des choses comme ça, donc il n'y a aucun risque. Puis de toute façon, c'est principalement des couleuvres, donc il n'y a pas de venin chez les couleuvres, donc il n'y a pas de risque. Et c'est aussi une des espèces, voilà, emblématiques de ces sites. Et quand il y a des couleuvres, quand il y a ces reptiles, c'est un peu comme le lézard vert dont on a parlé, c'est vraiment des espèces qui montrent la richesse du site, avec un équilibre écologique, puisque du coup il y a besoin de toute une chaîne alimentaire pour la présence de ces serpents, qui sont un peu en haut de la chaîne alimentaire.
Vous dites, Jérôme, il y a principalement des couleuvres. Il y a d'autres types de serpents ?
Alors, on peut voir des coronelles, des esculapes. Alors, c'est toute la famille des couleuvres. Et en Charente-Maritime, il peut y avoir quelques sites avec des vipères, la vipère aspic, mais elle est devenue extrêmement rare. Ces sites sont aujourd'hui en recherche, ces serpents, pour compléter les inventaires, justement, pour connaître encore les derniers sites avec la présence de ces animaux. Mais c'est quelques individus, quelques dizaines d'individus qui sont observés chaque année. Donc, c'est vraiment en les cherchant. Donc, du coup, c'est vraiment aujourd'hui très très rare.
Il y a pas mal. Comment ça se fait qu'elles aient disparu ?
Alors les vipères, elles ont malheureusement pour elles une très très mauvaise réputation, donc elles ont été tuées pendant très longtemps, donc ça a amené les populations à baisser assez fortement. Ensuite, c'est un animal qui mange beaucoup de petits rongeurs, et avec les traitements anti-rongeurs, les serpents ont aussi disparu. Tous ces paramètres, du coup, ont fait que les vipères, leur territoire a énormément régressé. Et aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Il y a aussi les haies. Hein, c'est un animal qui était présent énormément dans les haies. Alors aujourd'hui, on replante des haies. Donc du coup, ça fait revenir de la biodiversité. Mais pendant très longtemps, on a arraché les haies. Et du coup, les vipères, mais aussi toute la faune qui vivait dans ces haies, a très fortement régressé. Donc là, on est arrivé au bout, en fait. On peut rentrer par les deux côtés, c'est vrai, sur ce site. Donc on a à nouveau un panneau d'accueil qui symbolise, voilà, avec une belle photo d'orchidée, puisque c'est le symbole du site. Et puis du coup, une petite description du circuit, sachant que voilà, le circuit, il est vraiment libre sur ce coteau. On peut vraiment l'explorer un peu dans tous les sens, en respectant bien sûr les plantes, le site, hein, sans abîmer quoi que ce soit. Mais on peut vraiment l'explorer dans son ensemble.
Merci beaucoup Jérôme Bonchet pour cette visite et cette découverte du site.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis ben, du coup, j'espère que des gens pourront comme ça venir découvrir le site. Voilà, il ne faut pas hésiter, tout l'été, à l'automne, suivant la saison, ça ne va pas être du tout les mêmes choses à observer, mais il y a toujours des insectes, les plantes à voir. Et pendant l'été, hein, c'est des sites où il n'y a pas beaucoup d'ombre, il fait assez chaud, donc n'hésitez pas à venir plus tôt le matin et puis prévoir un peu d'eau, hein, pour se ravitailler.
Le coteau aux orchidées de Saint-Maurice de Tavernol, près de Jonzac. Merci à Jérôme Bonchet, animateur du site, qui promenait Élodie Chazet.